Bienvenue à Scale 16-17 avec Fulgence Plat au micro. Oui, voilà, la petite fraîcheur est revenue, la chaleur, il y a du soleil d'accord, mais la petite fraîcheur d'hiver est revenue. On a nouveau, je vois Mathieu à la console là-bas, la régie qui se réjouit parce que Fulgence a froid.
Non, parce que j'ai chaud, j'avais chaud.
Tu avais aujourd'hui?
Non, j'ai eu chaud. Depuis le début du mois de novembre, moi je suis très heureux de cette température.
De cette fraîcheur là maintenant, oui, de ce petit froid,
je n'appelle même pas une fraîcheur. Je suis né pour cette fraîcheur.
Merci à toi de ton intervention. Alors, on va commencer avec Myriam Larache qui va nous parler de deux nouvelles séries québécoises, Ma mère et un lion. Un lien familial et puis des séries attendues qui sont White Lotus et puis ma deuxième saison et de Crown... qui est la dernière saison. Et à 16h30, je vais recevoir Taïka Bayarjon, qui est directrice adjointe des politiques sur Héritage Montréal, pour nous parler de la mission de l'organisme. Alors, vous voulez en savoir plus et rester à l'écoute, ce sera à 16h30. Et tout de suite, on part en chronique série avec Myriam Larache. Bonjour Myriam.
Bonjour Fulgence et bonjour à tous nos auditeurs et à toute l'équipe. Ça va bien?
Oh oui, si je vais bien, merci. J'espère de même pour toi. Alors, pourquoi tu nous as choisi ces deux séries, Ma mère et puis Un lien familial?
Oui, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir d'en parler, c'est que c'est déjà la mi-saison, et c'est déjà des séries qui sont terminées. Alors, depuis une semaine, certaines plateformes et chaînes télévisées ont diffusé le dernier épisode de leur série pour laisser place à l'entrée de nouveautés. C'est pour ça que je parle de ces deux.
D'accord.
Elles viennent d'arriver.
D'accord.
Alors, c'est la fin de Chouchou, entre autres, celle qui a fait beaucoup parler d'elle. Tu te rappelles, Fulgence, celle de l'enseignante qui tombe amoureuse de son étudiant. Au
oui.
Secondaire.
Ouais, ça c'est pas de la fiction. Ça c'est pas de la fiction, ça.
Oui, mais ça c'était une fiction quand même, écrite par Boulris.
Ah d'accord.
Alors, on avait Anaï Arnaud, tu te rappelles aussi, j'avais présenté en début de saison celle qui était par contre inspirée de l'histoire de Francine Ruel, celle qui cherche son fils qui est devenu itinérant dans la rue. C'était la fin aussi.
Oui.
La semaine dernière, c'était la fin d'une affaire criminelle, celle qui a eu un grand succès, celle qui défend la mère, qui défend son fils. Parce qu'il est accusé et pendant 15 ans, elle cherche à le rendre innocent.
Oui.
Donc, c'était la fin aussi. C'était la fin d'avant le crash hier. Oh, quel final! Alors, voilà, c'était la fin de plusieurs séries, Fulgence. Donc, il y a des nouveautés qui arrivent. Je vous recommande à tous ceux qui suivent ça. Vous avez Chouchou à rattraper gratuitement sur Nouveau.ca. Une affaire criminelle aussi gratuitement sur Nouveau.ca, mais sur Crave aussi. Vous pouvez la retrouver.
Mm-hmm.
Sur TVA, donc plus, vous avez Anna et Arnaud pour tous ceux qui ont raté toutes ces séries. Et pour Avant le crash, sur ICiTout.tv. Donc, à tous ceux, vous n'avez pas perdu. Vous pouvez toujours aller les retrouver.
Mais c'est pas là éternellement, hein. Je pense bien dans les 30, pour les 30
oui,
prochains jours.
Ça fonctionne, ouais.
Ça reste un mois ou bien quelque chose qu'on va gratuitement.
Ah oui,
il faut aller télécharger. Okay. Sinon après, il faut aller regarder. Sinon après, c'est payant si je ne me trompe pas.
Voilà, sur Crave ou sur comme ça, ou là où on paye son abonnement.
C'est
alors, les nouveautés qui prennent place donc, de tous ces épisodes, j'en ai choisi deux cette semaine. J'en parlerai probablement d'autres la semaine prochaine. J'ai choisi Ma mère. Ma mère est une mini-série de 6 épisodes axée sur la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment dans les séries. Alors, créée par les auteurs.
Oui, ça, parce que ça fait partie de l'actualité.
Oui. Ah oui, ça fait partie d'actualité dans tous les domaines, hein, on l'a vu. Surtout nous, on le voit beaucoup au sport aussi, Fulgence, tu l'as vu.
Oui, ça touche tout le monde.
Alors, ça touche tout le monde. Donc, c'est une mini-série de 6 épisodes sur la santé mentale créée par les auteurs Anne Boyer et Michel Dastou. C'est vraiment les vedettes de l'écriture de série ici. Elle met en vedette Chantal Fontaine, qui joue la mère, et Marilyn Castonguet, celle qui, dans Je t'aime moi non plus, je pense, la fille parmi les 3 enfants. Alors, ma mère, c'est quoi? Elle s'attaque aux troubles bipolaires, cette fois-ci, et à ses conséquences dévastatrices sur 3 enfants qui ont été élevés, donc, par une mère malade et inadéquate. Certains spectateurs reconnaîtront le psychiatre, parce qu'il y a eu une saison 1, pas une saison 1, c'est drôle, hein? Certains spectateurs reconnaîtront le psychiatre de cette série qui traite, donc, le personnage principal pour la bipolarité.
Oui.
C'est l'acteur Luc Senay. Et ce psychiatre était dans une autre série qui s'appelait Mon fils. Alors, ça n'a rien à voir avec l'autre série qui s'appelle Mon fils, mais c'est le même psychiatre qui est là, c'est surprenant.
Ok,
donc,
d'accord.
Qui vient traiter la bipolarité de cette dame-là. Donc, je souligne, ce n'est pas une suite. Alors, ces 3 enfants d'âge adulte ne l'aperçoivent pas comme nous, le spectateur, évidemment, à commencer par l'aînée Valérie, dont l'existence a été détruite par l'absence de cette mère bipolaire, menteuse, manipulatrice, narcissique et toxicomane. Alors, la mère Chantal est un personnage complexe, et exaltée, qui ont fait baver à son entourage. Elle est excentrique, personnage central de la série. On la rencontre dès le premier épisode, à la première image, à sa sortie de prison. Donc Chantal Fontaine et Marilyn Castonguay qui nous montrent tout leur talent, vraiment de bonnes actrices dans cette série, à travers la mère et sa fille qui incarnent des femmes qui fuient, meurtries, dépendantes par la drogue, par le travail, brillantes quand même. Ce sont des femmes intelligentes, elles ne sont pas orgueilleuses et farouches, qui sont à deux doigts hein, de tomber dans le précipice. Et oui, le fond noir de la Dark Side, de craquer,
oui, de tomber dans le précipice. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est pas de tomber, mais c'est quand on va dans le précipice, c'est d'arriver à ressortir, à se relever.
Et puis c'est trop tard. Il n'y a pas de main tendue.
C'est ça. Et puis, mais Myriam, ce que je voulais ajouter, tu me permets avant de continuer.
Bien sûr.
Cette histoire de bipolarité, c'est pas facile aussi d'être dans les entourages ou bien d'être d'habiter ou bien d'avoir quelqu'un de proche qui a la bipolarité parce que tu subis, hein.
Exact.
Voilà,
c'est exactement ce que cette série montre. Elle montre le fait, tout l'effet dévastateur qu'elle a sur ses trois enfants. Hein. Ces trois enfants, ils nous montrent la série, surtout la fille, au fait. Ils axent beaucoup aussi sur la fille, qui est jouée par Marilyn Castonguay. Mais les deux autres enfants aussi subissent. Ils vivent leur vie à travers la maladie de leur mère. Oui. En fait, elle a une conséquence sur toute leur vie.
Oui, parce qu'elle a des sauts d'humeur. Voilà. C'est
exact.
Comme ça. La moindre chose, elle saute au plafond et se déchire les chemises. Les camisoles,
exact.
Et puis voilà, c'est les enfants qui doivent en partie, quoi. Voilà, je sais à peu près ce que... Voilà,
intéressant. Alors, ça commence ce soir, les amis. C'est ce soir le premier épisode à 20h sur les ondes de TVA. Donc, vous pouvez regarder ça.
Est-ce que c'est quotidien ou bien c'est hebdomadaire?
C'est hebdomadaire. C'est une série de 6 épisodes.
Oui.
Donc, qui aura une fin. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas... Ça s'appelle des mini-séries qu'on appelle.
Ah bon?
Donc, elle va être en 6 épisodes. Ils vont présenter ça aujourd'hui, puis ça sera fini. Après, si c'est loupé, ben, il faut aller la rattraper.
Bon, allez. Bon, voilà. Il y a des gens qui vont mettre ça à YouTube pour les autres qui n'ont pas vu, voilà.
Peut-être, mais TVA, c'est quand même gratuit à 8h, donc les gens peuvent l'enregistrer ou aller le regarder.
Ils peuvent l'enregistrer, voilà, c'est ça.
Maintenant, la deuxième nouvelle série qui a commencé celle-là la semaine dernière, ou même peut-être une semaine avant, est une série, c'est Un lien familial. Alors, elle est une série de 6 épisodes. Elle, par contre, c'est autre chose. Adaptée du roman à succès, je ne sais pas si tu l'as lu ce roman, mais à ce qui paraît que le Québec presque l'a lu, de Nadine Bismuth, qui porte le même nom, Un lien familial, publié en 2018, qui a eu un succès international.
Je ne l'ai pas lu, non.
Un succès international, Fulgence. Alors, à ce qui paraît que c'est un livre fabuleux. Moi, ils m'ont dit d'aller après avoir vu ça, je me suis dit, il faut que je lise le livre. Alors, la réalisation de cette adaptation télévisuelle de ce roman est faite par Sophie Laurin et co-sonarisée avec Nadine Bismuth et se veut un complémentaire au livre, en fait. Il ne faut pas penser qu'il y a eu des choses qui ont été ajoutées par l'écrivaine même, parce qu'elle a participé au scénario donc de l'adaptation télévisuelle. Alors, elle précise d'ailleurs en entrevue que le passage au petit écran ne lui a pas demandé de grands sacrifices. Au contraire, dit-elle, il n'y a que des ajouts qui se sont faits. Je pouvais raconter de nouveau cette histoire avec des ingrédients un peu différents.
Oui, parce que le réalisateur ne peut pas se permettre de mettre ça sur le petit écran sans toutefois faire appel à la personne qui a pris sa plume.
Et comme elle co-scénarise avec elle, alors c'est merveilleux, elle a pu ajouter...
Il ne peut pas avoir plus belle collaboration que ça, quoi.
Exact. Alors, Un lien familial raconte donc notamment la rencontre amoureuse entre Magali, une jeune mère dont la relation du couple bat de l'aile, et Guillaume, un policier père célibataire divorcé. Ils ne sont pas du même monde. Elle est plus bourgeoise, branchée, qui conçoit des cuisines pour des riches. Elle est trompée par son mari. Et lui, c'est un gars simple, de banlieue, avec ses enfants, puis qui est divorcé. Donc, il a une vie bien simple. Et lors d'un souper de famille, parce que les parents de ces deux gens-là se sont rencontrés dans la vie, donc ils se retrouvent dans un souper de famille. Et à la première rencontre, il est tout de suite séduit par celle qui apparaît à ses yeux, la femme de ses rêves. Alors, c'est l'actrice Rachel Gratton, notamment vue dans Les Simones, et Faits divers, très intéressante actrice, qui produit aussi, qui réalise en passant, qui incarne Magali, et Maxime Allard interprète le rôle de Guillaume le policier. La distribution compte également entre autres Pierre-Yves Cardinal, Chantal Fontaine encore, regardez bien, c'est celle qui était en haut, donc dans Ma mère, et Geneviève Rochette. Alors le roman n'a pas de suite, mais on dit déjà que la série aura une deuxième saison. Alors elle est en train d'écrire, Nadine Bismuth, elle a dit à la plume, la deuxième saison de
cette série. Mais ça lui donne du boulot en même temps.
Exact. Alors cette série est maintenant diffusée sur Ici Télé tous les mardis, ce soir aussi à 20h, hélas, à la même heure que l'autre.
Oui.
Donc il faudra choisir. Ça, c'est toujours ça. Hein. Radio-Canada et TVA font toujours la concurrence. Alors l'un est sur TVA, l'autre sur Radio-Canada.
C'est les deux grands fournisseurs ici. Et puis bon, voilà. Si je reviens sur l'auteur de
Nadine Infel... Bismuth.
Voilà, elle a, donc ça lui permet, même si elle avait déjà un projet qui était en cours, elle va mettre ça de côté pour pouvoir finir ce que le réalisateur lui demande et puis revenir sur son projet après.
C'est vrai qu'elle est très intéressante comme écrivaine. Ce serait bien de l'inviter, Fulgence, je te lance.
Il faut que je lise le livre d'abord.
Parce que son livre est incroyable. Hein, il n'a que des éloges pour son livre. Traduit, figure-toi, en 18 langues internationales dans le monde, tellement ça a eu un succès.
Ouais. Merci de parler de ça. Je vais. C'est quelle maison d'édition? Je vais trouver de toutes les façons.
Je vais trouver. Nadine Bismuth, tu vas tout de suite voir la première chose qui sort, Un lien familial, son roman publié en 2018.
Et donc, c'est tout neuf.
Oui, c'est pas si vieux, mais c'est quand
non,
même.
Non, c'est pas vieux, 2018, un roman.
Ça fait 4 ans quand même.
Oui, mais on lit des livres qui ont été écrits en 1800 ou bien 1900.
Ah, c'est sûr, mais là, c'était Balzac et Proust. Hein, voilà. Bon, alors, je voulais te faire remarquer que Chantal Fontaine, je fais ce petit lien, juste une anecdote sur le côté, qu'elle avait, on l'a plus vue pendant longtemps dans notre petit écran. Elle était quand même la vedette quotidienne de la première quotidienne à Radio-Canada qui s'appelait Virginie, la série. Et elle avait arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert un restaurant avec Guy Lepage en passant. Et le restaurant, devine c'est lequel, Fulgence, tu le connais bien. C'est celui qui est collé à CIBL.
À CIBL. Est-ce qu'il fonctionne encore ce resto? Ça fait longtemps que je ne suis pas passé dans ce coin.
Je pense que oui.
D'accord. Oui,
il est toujours ouvert.
Bon, c'était, ça avait l'air vraiment, quand j'avais mangé là-bas, mais c'était un restaurant VIP quand même. C'était pas un restaurant.
Non.
C'était un peu trop.
Il faut avoir un bon budget pour aller manger là. Alors, maintenant, nous allons passer à, il y a des nouvelles saisons qui sont sorties. Il y en a qui sont attendues. J'en ai choisi deux parce que vous le savez, nous avons une chronique quand même assez courte quand même.
Oui.
Alors, je vous ai choisi The White Lotus, le lotus blanc. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé au début de l'année, vous vous rappelez, il a été énormément primé et il a gagné la série de l'année aux Emmy Awards en septembre. Alors, donc, la saison 2 est pas sortie. Attendez, je vais vous le dire tout de suite quand est-ce qu'elle sort. La deuxième saison a commencé donc depuis dimanche dernier sur Crave. Rappelons que la saison 1 a commencé.
Dimanche dernier, ça veut dire avant-hier, là?
Oui.
Ah, bon, d'accord. OK.
Mais on est déjà au deuxième épisode ce dimanche.
Ah, bon, d'accord. Oui.
Puis, elle a connu un grand succès et a été primée, donc, comme je vous l'ai dit, aux Emmy Awards. La critique est unanime, c'est à la fois drôle, grinçant, inconfortable et rempli d'esprit. C'est pour adultes, je tiens juste à dire comme ça. Alors, dans la saison 2, c'est étonnant, on quitte Hawaï. Et là, parce que The White Lotus, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire juste au départ. C'est une chaîne d'hôtels, c'est une chaîne hôtelière, OK? De luxe. Alors, The White Lotus, la saison 1 est à Hawaï et cette fois-ci, on est transporté en Sicile. Alors, les images sont magnifiques, Fulgence, et les paysages siciliens sont à couper le souffle.
Ah oui,
La mer bleue scintillante, les terres volcaniques vallonnées de vignes, le frizzento du prosecco, comme on dit, le champagne coule à flot, la musique pop italienne, toute cette ambiance luxueuse et pas vraiment tapageuse. Elle vous transporte en voyage à peu de frais, assis sur votre canapé. Écoute, tu as envie de voyager quand tu vois ça?
Sans aucun billet d'avion.
Exact. Non, mais l'image est fabuleuse.
On est en Sicile,
dans cette série.
On met plein la vue, quoi. Ouais.
Ah oui, c'est vraiment grandiose. Alors, et comme la première saison à Hawaï, la série débute avec la fin, encore une fois, et le cadavre d'un client flotte dans la mer bleue étincelante. Ouais. Et ça commence comme ça, et on fait un flashback. Donc, on commence, au fait, par un cadavre qui flotte. Et on commence, on nous ramène au début pour pouvoir arriver à pourquoi ce cadavre flotte-t-il sur l'eau. Alors, à noter, un seul personnage revient de la première saison, c'est Tania, l'héritière assez excentrique, jouée par Jennifer Coolidge, drôle comme tout. Alors, c'est elle qui revient comme personnage, comme cliente encore, mais les autres, ils ne sont pas là. C'est toute une nouvelle distribution. Alors, The White Lotus 2 est une histoire donc de mort, de trahison, de désespoir, dans d'élégants costumes. C'est diffusé sur Crave en anglais et en français tous les dimanches. Il faut attendre chaque semaine pour en voir un.
C'est hebdomadaire.
Hebdomadaire aussi.
Oui.
Alors voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir parce que c'est vraiment beau. Comme déjà, l'image est magnifique et à ce qui paraît que c'est un humour assez fin, assez grinçant. Donc, il faut regarder ça. C'est pas pour rien qu'il gagne des Emmys. Alors, Maintenant, je vais vous parler de Crown. Pourquoi de Crown? Je vous en ai parlé aussi en septembre, mais je l'avais à peine suggéré parce qu'on était dans la fameuse période où la reine Elisabeth II est décédée. Ils ont même arrêté le tournage. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous avais parlé de ça. Alors, c'est la cinquième et apparemment ultime saison qui est disponible. Celle-là, c'est pour ça que je me suis trompée un peu tout à l'heure. Celle-là, elle est disponible seulement à partir de demain. Mais toute la polémique qui accompagne sa sortie gronde depuis des semaines. D'une attaque d'un ex-premier ministre à un coup de gueule de la célèbre actrice Judi Dench, les critiques envers la série fusent de toutes parts, car il y en a qui disent c'est exagéré, il y en a qui disent que c'est pas prouvé, c'est un démenti, bref. Et pourtant, Fulgence, le plus drôle, c'est que personne n'a encore regardé la série, même les médias. Tu sais, on donne des fois une primauté aux médias, l'occasion de regarder la série avant, pour en parler, pour en faire des teasers, pour... Ben, personne n'a encore regardé la série.
Il n'y a pas eu de projection média.
Aucune fuite, rien. Netflix a décidé que tout le monde, média ou pas, professionnel ou pas, tout le monde va la regarder demain, mercredi.
Ok.
Pas avant.
Oh, ouais.
Alors, c'est donc le cinquième chapitre en 10 épisodes.
Donc, la question de savoir qu'est-ce que les médias leur ont posé comme tort.
Avant de prendre cette décision,
je veux dire.
Mais parce que je pense. Il y a tellement eu de polémiques qu'ils ne veulent pas que ça commence avant que la série soit sortie pour tout le monde, pour que les médias n'influent pas, je pense, le public. Écoute, c'est fou. Déjà, les gens se fâchent avant qu'elle sorte la série. Ils n'ont rien vu, puis ils se fâchent. Alors, tu sais comment les Anglais sont avec la famille royale, hein? Alors, l'auteur, donc Peter Morgan, fournit une explication de fait de l'époque, a choisi de traiter les années 90 et pourquoi c'est l'une des décennies les plus éprouvantes pour la reine Elisabeth II,
oui.
On le sait bien. Qui est d'ailleurs interprétée par Imelda Staunton. D'ailleurs, lors d'un célèbre discours, la reine Elisabeth II avait dit sur cette période en 1990, écoute bien, « Anus horribilis » a-t-elle prononcé, qui n'a pas besoin que je vous le traduise, ok ?« Anus horribilis » pour les années 92 pour elle. Alors, selon les bribes de résumés libérés par Netflix...
Ces mots sont sortis de la bouche de la reine.
De la reine, dans un discours, tellement elle était fâchée dans les années 90. Alors, il sera question dans cette ultime donc, saison de nombreux ennuis d'ordre domestique.
Bien sûr,
c'est ça qui intéresse le monde, hein, qui ont plombé la monarchie d'ailleurs pendant cette période qu'on appelle la période noire d'Elisabeth II. Hein.
Oui.
Alors comme l'éternel conflit, évidemment, qu'est-ce qu'il va aborder? Eh bien, l'éternel conflit entre Charles et Diana, le livre publié par cette dernière d'ailleurs sur les failles de la famille royale qui ont brisé tous les protocoles, hein,
oui,
de la famille, elle avait publié un livre. On abordera aussi l'apparition de la famille d'hommes d'affaires Mohamed El Fayed et son fils, un certain Dodi El Fayed, avec qui elle est morte dans la voiture et qui disent que c'est son ultime amant. Donc c'est pour ça que je pense que ça crée tout ce remous en Angleterre. Les gens...
Oh oui, c'est le fils de l'homme d'affaires d'origine
égyptienne.
Oui.
Alors, The Crown donc, a rallumé la flamme populaire pour la famille royale avec ses rumeurs, ceux qui la défendent et les détracteurs de ceux qui la critiquent. Alors, la cinquième saison de Crown sera déposée sur Netflix dès demain, mercredi. Il y en a beaucoup qui l'attendent, Fulgence. En passant, voilà, c'est terminé. Je vais vous quitter.
Merci.
Merci
beaucoup, Myriam.
Oui, je vais juste vous dire que sur Netflix, maintenant, l'abonnement est réduit au Canada depuis le 1er novembre. Il est à 5,99 par mois et non plus à presque 14. Et vous pouvez le voir donc avec des petits...
À combien?
Maintenant, c'est à 5,99 par mois.
Au lieu de 14 par mois.
Oui, mais avec des publicités, bien sûr. Alors, pour
ceux qui ont... Donc, les 14 il n'y avait, pas de pub.
Pub, et là, il y a des pubs.
Non, donc, je te pose la question parce que je ne suis pas abonné à Netflix.
Oui, moi je suis abonné.
Je n'ai pas ce temps-là aussi non plus de préparer mes émissions et autres. Voilà, il faut lire les livres des auteurs.
Je suis abonné, c'est mon fils et mon conjoint qui sont abonnés.
Ah non, toi, tu n'as pas le choix.
Et moi, je n'ai pas le choix.
Alors, tu vis avec des hommes qui doivent aimer des choses comme ça, ton fils et ton...
Non, des séries que j'ai envoyées regarder, puis genre, qui est que sur Netflix en ce moment, c'est de Breaking Bad.
Oui.
Et celle-là, je vais en parler toute une émission un jour de cette...
Voilà, année. Tu vis avec deux hommes qui ne peuvent pas... Si, dis bon, oui, regardez ça, tu n'as pas le choix.
Voilà.
Merci
alors,
beaucoup, Myriam.
À la semaine prochaine.
Ouais.
À jeudi.
Oui, allez, à bientôt.
Allez, à bientôt, bye.
Bye-bye. For the man.
he's leaving the light. He's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long. Said he's going back,
going back
to a simpler place and time. Oh, yes, he is.
Right,
now be with him.
I know you will.
On that midnight train to Georgia.
Even on that midnight train.
I'd rather live in his world than live without him. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, so he burned all his hopes. And he even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did, he said. Said he's going back to find,
going
ooh,
back to find
a simpler place and time.
Takes that
ooh,
yes, gonna be
yeah, not gonna be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train to Georgia. I'd rather live in his world than live without him.
Gladys Knight avec The Pips, Midnight Train to Georgia. Voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la Géorgie, c'était le QG du Ku Klux Klan hein, à l'époque. Ça l'est toujours de toutes les façons. Voilà. Je vais parler rapidement d'un communiqué du Festival Nuit d'Afrique. C'est les productions Nuit d'Afrique qui présentent Yemi Alade, la Nigériane, qui est la grande vedette nigériane qui devait être ici durant le festival Nuit d'Afrique d'été 2022, là, à qui le visa de tourisme, de touriste avait été refusé, qui sera là ce jeudi 10 novembre, exclusivement en concert, qui sera en première partie. Ça va se passer où? Au MTLUS. Oui, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, ça se passe là. Ça va être le 10 novembre à 20h30 au MTLUS. Et puis la grande pop star nigériane Yemi Alade va se produire en exclusivité à Montréal. En première partie de cette soirée, la Montréalaise d'origine congolaise Nax Bitota. Voilà, Yemi Alade, allez-y sur YouTube, vous allez trouver presque toutes ses réalisations là-bas. Elle connaît un succès planétaire acclamé comme l'une des plus grandes artistes féminines afro-pop du continent africain. Cette méga star qui enchaîne les tubes et cumule plus de 400 millions de vues sur YouTube et 150 millions de streams sur les plateformes musicales. Elle a une voix, c'est une beauté en plus de sa voix puissante et ses chorégraphies énergisantes. Alade. Voilà, Yemi, elle décloisonne l'afrobeat en y influant une bonne dose de pop, de hip-hop, de reggae, de tout, quoi. Elle touche à tout. Elle n'a pas de soul et puis de gospel. C'est tout un tout, quoi, comme le font d'ailleurs les milliers d'artistes de la nouvelle génération africaine, quoi, voilà. Ils ne sont pas restés dans le balaboum, 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 comme on le dit souvent, j'ai l'habitude de le dire, et puis bon, mais elle touche à tout. Donc, après ce concert donné à l'Olympia, elle et son équipe de 6 musiciens et de 2 danseuses, et ils sont basés à Londres, au Royaume-Uni. De toutes les façons, moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le visa lui avait été refusé à l'époque. Peut-être qu'ils sont allés dans ces fils de nouvelles sur Facebook, ils ont découvert qu'elle avait fait ou bien liké des choses. Ouais, parce que ça arrive souvent. On refuse des visas à des gens et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait des déclarations ou bien ils ont liké, ils ont aimé des déclarations, des écrits de certaines personnes qui sont malencontreuses, quoi. Ça, c'est quelque chose comme ça, qui sont malveillantes, quelque chose comme ça. Donc, c'est Nax Bitota d'origine congolaise qui va débuter la soirée. Et c'est une femme aussi. J'aime bien ce qu'elle fait comme musique. Entourée de 5 musiciens et d'une danseuse, elle va présenter des extraits de son dernier album, Kouetou, qui sorti en juin dernier. Voilà. Elle flirte avec le soukous de son pays, le soukous Congo natal. Le soukous, c'était une sorte un genre de danse au Congo qui a été remplacé par beaucoup plus. Ça n'a pas été remplacé, mais c'est la rumba qui est beaucoup plus exécutée maintenant au Congo. Alors, pour ceux qui aimeraient participer aller à ce spectacle, allez à ticketmaster.ca, réservé à l'aide d'acheter votre billet pour le jeudi 10 au MTLUS. Ça va se passer là-bas. Vous allez découvrir cette grande vedette nigériane qui est basée à Londres. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, Taïka Bayarjan, qui est directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal, et pour parler de la mission de l'organisme. On va parler de ça. Si vous en savez plus, restez à l'écoute juste après la petite pause publicitaire. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie, la dernière partie de l'émission. Mon invité est déjà prête à parler d'héritage de l'organisme Héritage Montréal avec moi, Taïka Bayarjan, qui est la directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal. C'est une PhD, professeure associée chercheuse, qui c'est par la littérature que Taïka s'est intéressée aux questions urbaines après avoir fait une analyse typomorphologique. Par hasard, c'est dans son mémoire de maîtrise en littérature qu'elle a basculé vers les études urbaines au doctorat. Alors, elle est mieux placée pour nous expliquer ça, la littérature, et puis bon, ben, oh, un doctorat en urbanisme. Bonjour Taïka Bayarjan.
Bonjour,
bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous?
Oui.
Merci de venir nous parler de cet organisme Héritage Montréal, dont vous êtes la directrice adjointe des politiques. Quel est le rôle de la... Avant de revenir dans le vif du sujet, quel est le rôle de la directrice adjointe des politiques de cet organisme?
Peut-être c'est bien de parler de l'organisme pour expliquer le rôle.
Oui, pense, d'accord.
Comme vous l'avez dit, c'est un organisme qui existe depuis maintenant 45 ans. Vous ne l'avez pas dit ça, mais je le dis.
Oui.
Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on est là. Et puis, cet organisme-là a pour but de protéger, sauvegarder, mettre en valeur le patrimoine de la grande métropole,
oui.
Région métropolitaine.
De la région, oui. Dans la grande région métropolitaine de Montréal. 45 ans, ce n'est pas 2 jours. Hein?
Non. c'est une longue aventure qui continue, puis qui continue visiblement d'être appréciée aussi auprès des citoyens et citoyennes. Mmh. Donc ça, c'est vraiment super, parce que l'organisme travaille au niveau des activités. Mmh. Tout ce qui est sensibilisation, on fait des visites guidées de différents quartiers, sous différents thèmes, depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà, on donne les ateliers de patrimoine, de rénovation des maisons patrimoniales. On donne toutes sortes de petites formations comme ça aussi. Il y a tout un volet aussi de représentation politique. Là, c'est là où moi, je travaille avec M. Boumbarou, qui est là depuis les débuts de l'organisme, qui est vraiment, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, un homme vraiment passionné.
Oui.
Et donc, voilà, ce volet-là, c'est vraiment un volet de représentation. Par exemple, à l'Office de consultation publique, on va aller donner le point de vue de notre équipe, de nos experts, de notre communauté qui est attachée au patrimoine et qui veut sa continuité. Donc, il y a tout un travail à ce niveau-là. Et puis voilà, après, il y a tout un niveau aussi d'aide aux citoyens et citoyennes qui veulent participer à la protection du patrimoine. Des fois, il y a des citoyens et citoyennes qui ont des bonnes idées pour des bâtiments qui sont vacants, par exemple, puis nous, on les aide à s'orienter un peu là-dedans. Donc, voilà, c'est un peu les grands axes. Puis moi, là-dedans, je travaille en politique, mais on travaille tous en collaboration dans l'équipe. Donc, c'est vraiment une équipe super soudée qui travaille de manière très alignée. Puis,
là, c'est un travail d'équipe, quoi, oui.
Oui, puis c'est surtout qu'on a beaucoup de bénévoles. Et c'est le nerf de la guerre, là. Les bénévoles, c'est vraiment des gens fantastiques, qui sont généreux, qui ont beaucoup à apporter. Donc, on est chanceux.
Comment on peut devenir bénévole chez vous? On s'adresse à vous, tiens, j'ai du temps à donner.
Oui, exact.
Oui, allez-y, expliquez-nous un peu.
On appelle, puis on dit qu'on serait intéressé à être bénévole. Les plus gros besoins sont au niveau de l'accompagnement des visites. Des fois, les citoyens, ils veulent même devenir guides, puis là, ben, ils ont une formation, on leur donne une formation, puis ils deviennent guides pour nous.
Oui.
Mais il y a aussi de l'accompagnement. Il y a différentes choses que les gens peuvent faire, puis c'est super... voilà. C'est super aidant.
Ouais. Ah, génial. Génial, il faut avoir du temps. Ouais, le bénévolat, quand on n'a pas le temps, on ne peut pas le faire d'abord de toutes les façons.
Oui,
alors,
c'est vrai, c'est
Taïka, vous, personnellement, comment on bascule d'une maîtrise en littérature vers des doctorats ou en études urbaines? Comment est-ce que ça fait le basculement?
Oui, bon, ça, c'est une autre histoire.
Oui.
Mais bon, vous posez la question. En fait, quand j'ai travaillé sur ma maîtrise, je suis partie de littérature des écrits des philosophes allemands du début du 20e siècle qui ont beaucoup écrit sur la ville.
Oui.
La ville, l'argent, la modernité, le capitalisme, le capital, tout ça. Puis moi, je m'intéressais à ça, puis je travaillais sur Berlin à travers ça, parce qu'ils parlent beaucoup de Berlin.
Oui.
Donc, Berlin, c'est comme mon terrain de jeu, dans le fond. Puis ben, en travaillant là-dessus, tu sais, moi, je voulais travailler sur comment la ville continue à évoluer à travers un siècle d'histoire totalitaire. C'est un peu intense, mais c'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Puis finalement, je me suis concentrée sur deux espaces publics vraiment importants, un plus à l'ouest et un plus à l'est, qui ont vraiment évolué de façon différente au cours du siècle. Puis j'ai comme analysé ce que ça représentait de la vie sociale, politique, économique de la ville, du pays, à une époque vraiment comme où il se passait beaucoup en Europe.
Oui.
Et puis ça m'a amené à l'amour des villes, de l'architecture, de l'urbanisme, des relations des citoyens et citoyennes avec leur ville. Puis voilà, j'ai donc décidé de poursuivre mes études plutôt qu'en littérature, où là, franchement, j'ai tiré vraiment la sauce vers les études urbaines et touristiques.
Okay.
Donc voilà, puis ça a été plus l'amour d'une ville qui m'a amené à l'amour des villes de façon plus générale, puis ensuite plus spécifiquement à ce qu'elles ont comme identité architecturale.
Architecturale, oui.
Et c'est pas juste l'architecture, c'est comme comment on habite un quartier, pourquoi un quartier a été construit d'une telle façon, puis comment on l'habite aujourd'hui. Mm-hmm. Puis apprendre à connaître où on habite, pourquoi, quand, qui était là, puis ça nous aide à habiter cet espace-là, je pense. Ça nous dit beaucoup. Mm-hmm. Donc moi, ça m'intéressait, puis c'est comme ça que j'ai travaillé sur des territoires qui étaient des territoires de reconstruction après des guerres, mm-hmm. et puis ça m'a amené à m'intéresser à la reconstruction des villes après, par exemple, des catastrophes naturelles ou des catastrophes économiques. Puis là, à travers tout ce que ça amène comme lot de complexité pour gérer les villes en temps de guerre et après, comment on gère le reste, la suite. Moi, ça m'intéressait de me pencher sur la question des bâtiments patrimoniaux qui sont abandonnés. Dans ce contexte-là, de crise. Puis souvent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, puis il faut gérer comme est-ce qu'on les démolit, est-ce qu'on les reconstruit, est-ce que les citoyens ont des idées pour des projets plus communautaires. Il y a différentes questions qui se posent, puis moi, ça, je trouvais ça super intéressant. Oui.
Je vais prendre la balle au bon, parce que quand vous êtes revenu chaque fois sur la participation citoyenne, cela consiste en quoi?
Ben, écoutez, quand je parle de participation citoyenne, ça, c'est une échelle extrêmement longue, hein, longue ou large. Les citoyens peuvent s'impliquer d'emblée en s'intéressant à leur ville, puis en faisant justement connaissance avec leur ville, par exemple, avec des idées. C'est surprenant, mais on apprend souvent beaucoup. C'est aussi s'intéresser à la vie politique qui entoure le construit. C'est un peu bizarrement dit, mais le patrimoine, c'est tout un contexte, en fait. Puis on s'intéresse à notre milieu de vie, on s'implique peut-être au niveau de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique municipale par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut influencer des gestes politiques? Est-ce qu'on peut avoir des projets pour des bâtiments qui ont besoin d'amour, pour des secteurs qui ont besoin d'amour? Puis comment les citoyens peuvent participer à la vision, à écrire la vision pour ça, mais aussi à le faire, à l'action.
Pour donner vie à leur quartier, quoi, ce qu'on appelle la vie de quartier, oui.
Exact. Puis évidemment, le bâti, ça fait partie de la vie de quartier. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on peut pas juste comme démolir, reconstruire.
C'est ça.
On n'est plus dans une époque où on peut faire ce genre de choses-là. Mm-hmm. Donc, il faut apprendre à prendre soin des choses qu'on a.
Oui.
Ça se dit dans le vêtement beaucoup, mais ça, dans le bâtiment, c'est pareil. Il faut qu'on prenne soin de nos bâtiments, mais en toute honnêteté, le système n'avantage pas en ce moment l'entretien, la réparation, la rénovation. Ça coûte souvent beaucoup plus cher de rénover que de construire.
Ça vous frustre?
C'est qu'en fait, c'est pas consciencieux de notre réalité climatique.
Ouais.
Donc oui, c'est une question de mémoire, et c'est intéressant parce que justement, c'est une question de mémoire, mais c'est aussi une question de savoir. Il y a des savoirs, tu sais, il y a des métiers qui ont pas disparu, mais presque. Puis c'est des métiers dont on a besoin pour construire de façon peut-être plus écologique, là, d'une certaine manière. Bref, il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça. Mmh.
De quelle manière a évolué l'organisme depuis sa création, depuis 45 ans? C'est, quand je parle d'évolution, la manière de travailler, l'approche avec bien ces bâtiments ou bien avec les responsables des différents quartiers dans lesquels vous travaillez, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous êtes bien reçu par les responsables politiques quand vous faites une découverte d'un monument, d'un ancien monument ou bien quelque chose comme ça qui vous intéresse, que vous aimeriez rénover ou bien quelque chose comme ça? Comment ils vous accueillent, les politiques, dans les arrondissements, dans les quartiers?
Ça dépend tellement de même l'individu à qui on parle, d'une certaine manière. C'est une grosse machine, hein, la ville ou le système du bâti et de l'aménagement. Mais oui, ça dépend vraiment de quel axe vous le prenez, en fait.
Oui. Et bien, dans la mission aussi, dans votre mission aussi, les questions d'éducation, de sensibilisation, de mobilisation, n'est-ce pas? C'est...
Oui.
Voilà, je suis tombé, je suis allé sur votre site, là, je suis tombé sur des activités scolaires. Ça m'a beaucoup, avant de revenir, on va parler un peu de votre 5 principes d'excellence en développement urbain. Ça m'a beaucoup intéressé aussi dans mes recherches. Et oui. On va parler un peu de ce volet activités scolaires, là. Est-ce que ça, les ressources pédagogiques pour les enseignants, premier cycle du secondaire, j'ai trouvé ça génial, cette idée.
Mais c'est effectivement une idée géniale. C'est pas un projet que moi je porte, mais notre directrice des activités, Amélie, qui pourrait vous en parler en long et en large, mais c'est un projet qui nous a été demandé.
Oui.
Puis nous, en fait, on en avait déjà fait des ateliers pour les écoles.
Oui.
Mais ça fait longtemps qu'on n'en faisait plus. Puis
oui.
Là, on a une nouvelle opportunité, puis on savait qu'il y avait un besoin puis un intérêt aussi auprès des écoles, des quartiers, pour faire découvrir les quartiers aux jeunes, justement. Donc oui, c'est génial. C'est vraiment une belle opportunité de leur faire connaître et apprécier leur ville.
Oui, et puis une manière aussi de leur faire comprendre le vrai sens du mot patrimoine. C'est quoi?
Oui, c'est vrai.
Parce que le mot, il est... Des fois, il est galvaudé, hein. Il n'est pas bien expliqué, on ne sait pas en quoi ça... Voilà, on va parler un peu de vos 5 principes d'excellence en développement urbain. Moi, quand j'ai parcouru les 5 principes, je me dis, waouh, quelle minutie. Pertinence et recevabilité des projets. Réponse aux besoins collectifs, capacité d'accueil du site au plan symbolique, patrimonial, physique, social et fonctionnel. Ça, c'est quand même... Quand vous retrouvez dans un projet comme ça, et par exemple, vous avez un manque de bénévoles, comment vous vous arrangez avec la petite équipe que vous arrivez? Est-ce qu'il y a un délai que vous fixez pour rénover un monument ou bien un bâtiment?
Mais c'est pas nous là, qui rénovons un bâtiment.
Les gens qui sont dans le projet, vous accompagnez. Est-ce que vous leur donnez un délai ou vous leur dites il faut tant, voilà le budget qui est là et on doit aller comme ça dans cette direction?
Ah, c'est tellement compliqué le patrimoine. En fait, c'est pour ça que nous, on offre ces services-là. C'est vraiment aux besoins à la demande, mais... C'est que c'est très complexe, en fait. L'acquisition d'un bâtiment patrimonial, après la restauration, c'est souvent quand même cher. Mais ça, c'est surtout que c'est complexe. Toute la législation qui l'entoure, bref. Donc, il y a des acteurs qui existent pour faire des projets, des promoteurs, il y a aussi des architectes qui peuvent faire les projets, mais souvent, les citoyens, ils connaissent pas ça, ils savent pas par où le prendre.
Oui.
Donc, nous, c'est vraiment un service plus d'accompagnement. On fait pas le projet, mais c'est sûr que les projets, ça dépend de qu'est-ce qui est nécessité en termes de travaux. Des fois, ça peut être un bâtiment qui est vacant depuis... 5 mois, qui a été chauffé, qui a été éclairé, puis il n'y a presque rien à faire, sauf de l'entretien qu'il faut penser dans le billet. Mais ça dépend vraiment de l'état des lieux. Là.
Oui.
Il y a des lieux qui vont être surclassés, si je peux dire, ou surprotégés. Puis il y a d'autres lieux qui ne seront pas du tout, qui sont pas identifiés comme patrimonial, mais qui ont quand même des caractéristiques de qualité, qui ont une importance mémorielle ou quelque chose comme ça.
OK. Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé, dans vos 5 principes d'excellence en développement urbain, là, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 types de patrimoine. Là, je dis le bâti, le paysage urbain, l'archéologique, le mémoriel et le naturel. Je me dis, il va falloir que je demande à Taïka de nous expliquer un peu. Qu'est-ce qui les différencie?
Traité par des instances différentes. Pensez au patrimoine naturel, par exemple, et au patrimoine architectural. C'est souvent, ils sont traités par les mêmes instances. D'emblée, il n'y a pas la même législation. Patrimoine agricole, c'est pas traité de la même façon que le patrimoine urbain.
Oui.
Bref, donc, ces valeurs-là, ces types-là, ces patrimoines-là, ces formes de patrimoine-là, on les pense. Je pense que l'État de Montréal a toujours eu cette vision très urbaine, justement. C'est que pour nous, le patrimoine, c'est transversal. Là.
Oui.
Ça couvre beaucoup de choses. Donc, c'est dans ce sens-là aussi.
Oui. Il n'y a pas de collaboration de vous.
pardon?
Est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels vous rentrez en collaboration, des thèmes ou bien des bâtiments qui font que vous allez tomber en collaboration avec des archéologues ou bien des... Voilà.
Pour faire de la recherche?
Oui, oui.
Ça peut arriver, mais c'est surtout nous, en fait, ça, on affilie peut-être avec des chefs de recherche, par exemple, ou des professeurs, mais on ne fait pas de la recherche comme fondamentale, ou de la recherche vraiment sur le patrimoine en général. On est vraiment plus dans une idée de sauvegarde, de protection, de participation des citoyens dans cette sauvegarde-là.
Oui.
Voilà. Donc, on agit vraiment à ce niveau-là.
40 ans d'ADN, vous êtes le promoteur Héritage Montréal, promoteur de l'ADN de la métropole depuis plus de 40 ans, ça a des 45 ans, ça a quand même aidé. Apporter un regard critique, rassembler, maintenir, constantiser et conseiller, waouh, ça c'est, tout est là, tout est dit là-dedans. Et je me suis dit, il nous reste encore une minute là avant de vous laisser partir. Quel est le dernier mot que vous avez à lancer à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient savoir un peu plus, découvrir un peu. Est-ce que quand vous êtes en plein, est-ce qu'on peut vous rendre visite pour avoir des, comment dirais-je, de plus amples informations en dehors des bénévoles ou quelqu'un
oui,
qui dit
bien sûr. Oui. Passer au bureau, par exemple, puis venir nous poser des questions, mais vaut mieux appeler quand même avant.
Oui.
Nos informations sont sur notre site internet. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions des citoyens.
On vous entend très mal maintenant.
Ah oui?
C'est mieux.
Comme ça, c'est mieux, désolé.
Oui. C'est mieux maintenant. Toutes les informations sont sur le site web Héritage Montréal, en un seul mot, .org, ça dit org.
Oui, exact.
Voilà, on vous entend très bien, c'est parfait, comme au début de la conversation d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Baïka. Taïka Bayarjon, directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal, professeure PhD, professeure chercheuse. Et je pense bien qu'on aura l'occasion de, quand je vais passer devant les monuments qui sont en train de se faire restructurer, retoucher ici à Montréal, je vais penser à Héritage Montréal.
Super. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous dis merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Taïka Bayarjon, la directrice adjointe des politiques chez Héritage Montréal. Vous avez eu, voilà, cet organisme. Allez-y sur le site, hein, Héritage Montréal en un seul mot, .org. J'ai retrouvé toutes les informations là-bas. Voilà, pour savoir la prochaine fois que je vais passer devant un gros monument, si un grand monument à Montréal est en train de se faire retaper, je vais penser à Héritage Montréal. Alors, hier, je parlais de la planète, de nouveau cap démographique, bientôt 8 milliards d'humains sur une planète, sur notre planète, aux ressources illimitées. Voilà, bientôt. Voilà, je vais parler aujourd'hui du ralentissement. Donc, la division population de l'ONU qui estime que l'humanité atteindra le 15 novembre 8 milliards d'habitants, plus de 3 fois plus que les 2 fois 5 milliards de 1950. Message clé, le rythme de la croissance de la population. Oui, mondial a radicalement baissé depuis le sommet des années 60. Mais ça veut dire quoi? Cette croissance est ainsi tombée de 2,1% entre 62 et 65 et en dessous de 1% en 2020 et pourrait encore fléchir autour de 0,5% en 2050. Est-ce que la question se pose? Est-ce qu'on va aller vers 9 milliards ou bien plus 10 milliards d'habitants sur cette planète où il n'y a plus de place pour tout le monde? Il n'y a que des inondations avec le réchauffement climatique. Ils sont rassemblés, tous les grands de cette planète, de cette terre, sont actuellement rassemblés en Égypte. Dans 2 semaines, ils vont se déchirer les chemises là-bas. ceux qui sont d'accord pour des projets, ceux qui ne sont pas d'accord, on ne sait pas. Étant donné que le nombre de personnes en âge d'avoir des enfants et la hausse de l'espérance de vie, la population va malgré tout continuer à grossir environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050 avant un sommet de 10,4 milliards dans les années 2080 et une stagnation aussi jusqu'à la fin du siècle, selon les projections de l'ONU. Il y a des chiffres qui ne font pas l'unanimité. Une étude de l'Institute of Health Metric and Evaluation américain publié en 2020 prédit ainsi un sommet bien plus tôt, en 2064, sans atteindre 10 milliards, 9,7 milliards, puis un déclin jusqu'à 8,8 milliards en 2100. Alors, de toute façon, je ne serai plus de cette terre, alors. Bon. Toi, oui, Mathieu. Nous sommes en dessous de l'ONU parce que nous avons un modèle de fertilité très différent qui prévoit notamment 1,66 enfants par femme en 2100. 1,66 enfants par femme en 2100. Explique à l'AFP l'auteur principal Stein-Emil Volsey qui estime que la croissance s'arrêtera entre 9 et 10 milliards. Voilà. Oui, 9 et 10 milliards d'individus. Fécondité en baisse. En 2021, le taux de fécondité moyen était de 2,3 enfants par femme. Contre environ 5 en 1950, selon l'ONU, qui prévoit 2,1 en 2050. Ouais, ça change quand même. Et puis, on vit de plus en plus vieux. Hein. Facteur clé de la croissance de la population. L'espérance de vie moyenne augmente. 72,8 en 2019, 112,8, bien sûr, en 2019, soit 9 années de plus qu'en 1990. Ah ouais, et l'ONU prévoit 72,2 en 2050. Hein, c'est comme ça. Et puis, il y a une diversité sans précédent. Est-ce que l'Inde va dépasser la Chine ? À autre utilisation, illustration des changements de tendance, les deux pays les plus peuplés, la Chine et l'Inde, vont échanger leur place sur le podium dès 2023, l'année prochaine, selon l'ONU. La population chinoise est de 1,42 milliard d'habitants et en 2022 vont commencer à décliner pour redescendre à 1,3 en 2050 et seulement 800 millions d'ici la fin du siècle. La population indienne de 1,41 en 2022, malgré son passage sous le taux de remplacement, va elle continuer à grossir avec 1,66 milliard attendu en 2050. Donc c'est l'Inde qui va prendre le top du podium, quoi. Ouais, la Chine sera en deuxième position. Merci beaucoup à toi, Mathieu Tessier. On se retrouve demain.
Eh oui.
Ouais, t'as pas peur de ces chiffres?
Oui, mais et voilà.
De toutes les façons, en 2100, nous, on ne sera plus là.
Ah, moi, oui.
Voilà. Oui. Allez, belle vie, alors. Belle longue vie, Mathieu. Allez. Merci à Myriam Larache, merci à Taïka Bayargent et merci à Catherine Bourderon, la recherchée de l'émission. Je dis merci à vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, voilà, qui nous suivez depuis le début de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M et sur ce. Prenez soin de vos minutes et sur ce, je vous dis ciao. Et on termine en beauté avec The Devil Music Co. Head Over Heels. Three sheets to the wind, I'm gone. If you ask me to jump, I'll fall. 'Cause I'm head over heels in love. I'm running thoughts through my head, 'cause I've been around, babe. Trying to brace myself, 'cause I know that you're her, the girl with the broken smile. I know I've loved you before, 'cause I don't second guess, I don't question it at all. I know I've loved you before, but I don't care.